Commentaire sur 1 Corinthiens, introduction et partie 1, étude numéro F046. La lettre aux Corinthiens a été écrite vers l'an 55 de l'ère courante, à partir d'Éphèse, à la fin de la mission de Paul dans cette ville. La première épître aux Corinthiens a été adressée à l'église de Corinthe, près du centre de la province romaine d'Achaïe. C'était une ville importante de la Grèce. C'était une ville où Paul avait fondé l'église de Corinthe. Acte 18, versets 1 à 17, vers l'an 52 de notre ère ou avant. Paul était à Éphèse depuis 3 ans, et cette lettre est considérée comme ayant été écrite vers l'an 55 de la courante, à la fin de ses 3 années à Éphèse, voire ci-après. Lors de son deuxième voyage d'évangélisation, Paul est arrivé à Corinthe en provenance d'Athènes. Il n'a eu que très peu de succès à Athènes, et il n'y est pas resté très longtemps. Mais il est resté à Corinthe pendant 18 mois. Il y passa plus de temps que dans toute autre ville, à l'exception d'Éphèse. Il est resté chez Aquila et Priscilla, qui étaient des fabricants de tentes comme lui. Il y prêcha d'abord dans la synagogue. Lorsque les Juifs s'opposaient à lui, il utilisait la maison de Titius Justus, qui vivait à côté de la synagogue. Paul a eu du succès et Crispus, le chef de la synagogue, est devenu chrétien. Lorsqu'un nouveau fonctionnaire romain arriva, les Juifs lui emmenèrent Paul vers l'an 51 de notre ère. Paul se rendit ensuite plus tard en Syrie. Ses écrits montrent une bonne et solide connaissance de la vie de l'Église dans cette région. Il s'est inquiété, dès que les 2 lettres ont été envoyées, de la conduite de l'Église. Paul a écrit la lettre, voir le chapitre 1, verset 1 à 2, chapitre 16, verset 21, depuis Éphèse, chapitre 16, verset 8, acte 19, verset 1 à 40. Éphèse est située de l'autre côté de la mer Égée, à côté de Corinthe. La lettre a probablement été datée de 2 ou 3 ans avant celle aux Romains. Se référer au chapitre 16, verset 1, se référer également à 2 Corinthiens 9, verset 1 à 2, concernant la contribution pour les saints, entre parenthèses, voire introduction au commentaire sur Romains. L'auteur de la lettre aux Corinthiens a été attesté par Clément de Rome dès l'an 96 de la courante. La lettre a été écrite vers l'an 55, à la fin des 3 années de résidence de Paul à Éphèse. Voir le chapitre 16, versets 5 à 9, acte 20 jusqu'au chapitre 31. Il ressort clairement, d'après sa référence au séjour à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, voir le chapitre 16, verset 8, qu'il avait l'intention d'y rester moins d'un an lorsqu'il a écrit 1 Corinthiens. L'épître concerne les problèmes doctrinaux de l'Église et les problèmes éthiques qui en découlent. En traitant ces problèmes, nous sommes en mesure de déterminer des orientations durables sur notre conduite et notre amour en tant qu'Église, chapitre 13, et sur notre attente du royaume de Dieu et de la résurrection à venir, chapitre 15. Corinthe était située dans un étroit isthme. C'était un centre commercial important, et donc un bon endroit pour la diffusion de l'Évangile. Elle avait 2 ports. Le port de la côte est était situé à 6 km du port de la côte ouest. Aujourd'hui, un canal relie les 2 ports. C'était un centre important de commerce terrestre et maritime. Corinthe avait une citadelle haute et forte à l'arrière, et se trouvait entre le golfe Saronique et la mer Ionienne, avec des ports à Lekeion, Léché, et Chancréa, Chancré. Une route de pierre, Diolkos, en grec, utilisée pour le transport terrestre des navires, assurait la liaison entre les 2 mers. Le temple d'Aphrodite, qui couronnait l'Acrocorinthe, était desservi, selon Strabon, par plus de 1000 prêtresses prostituées païennes. Vivre, entre parenthèses, comme un Corinthien, signifiait mener un style de vie de débauche, dissolue. Les prostituées du temple exerçaient leur activité jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge adulte, et ensuite elles se mariaient. Pour préserver leur anonymat, elles portaient des voiles ou des hijabs après leur retraite et leur mariage. Les femmes de l'Église refusaient de les porter, car elles n'étaient pas des prostituées dans leur jeunesse. La femme du prophète arabe a refusé de les porter au 7e siècle, se référer au document numéro Q001C. Corinthe contenait au moins 12 temples. On ne sait pas avec certitude s'ils étaient tous en usage à l'époque de Paul. L'un des plus célèbres, malheureusement, était le temple dédié à Aphrodite, la déesse de l'amour, dont les fidèles adorateurs pratiquaient la prostitution religieuse. À environ un quart de mille de kilomètres, au nord du théâtre se trouvait le temple d'Asclépios, le dieu de la guérison, et au milieu de la ville se trouvait le temple d'Apollon, datant du VIe siècle avant Jésus-Christ. En outre, les Juifs avaient établi une synagogue. Le linteau inscrit de celle-ci a été trouvé et placé dans le musée du Vieux Corinthe. Comme toute grande ville commerciale, Corinthe était un centre d'immoralité ouverte et débridée. Le culte d'Aphrodite encourageait la prostitution au nom de la religion. Se référer au site internet biblica.com, ci-après. C'était le cas partout dans tout le Moyen-Orient, sous le culte de Baal et les systèmes grecs. Corinthe avait une fière histoire de leadership dans la Ligue des Achaïens, et un esprit de renouveau d'hellénisme ravivé sous la domination romaine après l'an 44 avant notre ère, suite à la destruction de la ville par Mummius en l'an 146 avant notre ère. C'était une colonie romaine dans laquelle il y avait de nombreuses nations, dont des Grecs, des Juifs et diverses personnes d'Asie. La région autour de Corinthe a également accueilli les Jeux isthmiens, entre parenthèses appelés aussi Jeux isthmiques. Ils n'ont été que les deuxièmes en importance après les Jeux olympiques. Le long séjour de Paul à Corinthe l'a mis en contact direct avec les principaux monuments de l'Agora, dont beaucoup subsistent encore. La fontaine de la source Peyrénée, le temple d'Apollon, le Thermacélum, ou un marché aux viandes, voir 1 Corinthiens 10, verset 25, et le théâtre, le Béma, voir Actes 18, verset 12, et la synagogue, peu impressionnante, ont tous joué un rôle dans le vécu de l'apôtre. Une inscription du théâtre nomme le fonctionnaire de la ville Éraste, probablement l'ami de Paul, mentionné dans Romains 16, verset 23. Voir la note ici dans cette référence, Romains 16, 23. Occasion et but. Paul avait reçu des informations de plusieurs sources concernant les conditions existant dans l'église de Corinthe. Certains membres de la famille de Chloé l'avaient informé des factions qui s'étaient développées dans l'église, voir le chapitre 1, verset 11. Il y avait trois personnes, Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus, qui étaient venus voir Paul à Éphèse pour apporter leur contribution à son ministère, voir le chapitre 16, verset 17. Mais nous ne savons pas si c'était ceux des membres de la famille ou maison de Chloé. Certains de ceux qui étaient venus avaient apporté des informations inquiétantes concernant des irrégularités morales dans l'Église, voir les chapitres 5 à 6. L'immoralité avait frappé l'assemblée corinthienne presque dès le début. À partir du chapitre 5, versets 9 à 10, il est évident que Paul avait déjà écrit au sujet du laxisme moral. Il avait exhorté les croyants à ne pas s'associer avec des personnes sexuellement immorales, voir le chapitre 5, verset 9. En raison d'un malentendu, il juge maintenant nécessaire de clarifier ses instructions, voir le chapitre 5, verset 10 à 11, et de demander une action immédiate et radicale, voir le chapitre 5, verset 3 à 5, verset 13. D'autres visiteurs corinthiens avaient apporté une lettre de l'Église qui demandait des conseils sur plusieurs sujets, voir le chapitre 7, verset 1, et à la note, se référer aussi au chapitre 8, verset 1, chapitre 12, verset 1, chapitre 16, verset 1. Il est clair que, bien que l'Église ait reçu beaucoup de dons, voir le chapitre 1, verset 4 à 7, elle était immature et non spirituelle, voir le chapitre 3, verset 1 à 4. Les buts de Paul dans la rédaction étaient les suivants. 1. Instruire et restaurer l'Église dans ses domaines de faiblesse en corrigeant les pratiques erronées telles que les divisions, voir le chapitre 1, verset 10, jusqu'au chapitre 4, verset 21. L'immoralité, chapitre 5, chapitre 6, verset 12 à 20, les litiges devant les tribunaux païens, chapitre 6, verset 1 à 8, et l'abus du dîner du Seigneur, chapitre 11, verset 17 à 34. 2. Corriger le faux enseignement concernant la résurrection, voir le chapitre 15. Et 3. Répondre aux questions adressées à Paul dans la lettre qui lui avait été apportée, entre parenthèses, voir paragraphe précédent. Voir aussi le lien suivant de biblica.com. Revoyons le sujet de la lettre précédente. Paul a dit « Je vous ai écrit une lettre. Dans cette lettre, je vous ai dit de n'avoir rien à voir avec les hommes de mauvaise vie. » 1 Corinthiens 5, verset 9. Cette lettre est considérée comme perdue. Aucun fragment de celle-ci peut maintenant être trouvé dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 jusqu'au chapitre 7 verset 1. Entre parenthèses, se référer à la Bible Oxford RSV, la note de bas de page. Paul évoque une deuxième visite douloureuse. Paul a entendu dire que les problèmes à Corinthe étaient pires. Il a donc fait une deuxième visite. Il n'y a aucune trace de cette visite, mais Paul raconte qu'il a visité Corinthe pour la troisième fois. Voir 2 Corinthiens 12, verset 14, chapitre 13, verset 1 à 2. Il a donc dû y avoir une deuxième visite. Objet, la lettre sévère. La visite de Paul n'a pas été couronnée de succès. Il a donc écrit une lettre alors qu'il se sentait très blessé. Voir 2 Corinthiens 2, verset 4. Il était presque désolé de l'avoir envoyé. Certains auteurs pensent que les chapitres 10 à 13 de 2 Corinthiens sont issus de la lettre sévère. La lettre montre que les chrétiens de Corinthe et Paul sont redevenus amis. Paul était si inquiet de sa lettre sévère qu'il est allé rencontrer Tite. Tite avait apporté la lettre sévère à Corinthe. Paul a rencontré Tite en Macédoine et a appris que tout allait bien. Il a donc écrit les chapitres 1 à 9 de la deuxième épître aux Corinthiens. Certains érudits considèrent qu'il est possible que quelqu'un ait mis ensemble la lettre sévère et la lettre suivante dans le mauvais ordre. Nous en parlerons dans le commentaire sur la deuxième épître aux Corinthiens, F 047. La lettre traite des problèmes de conduite chrétienne dans l'Église. Elle concerne la sanctification progressive et le développement continu d'un caractère saint. Le but des chapitres est examiné ci-après. Cette lettre est considérée comme opportune pour l'Église aujourd'hui. Les chrétiens ont été influencés par leur environnement culturel. Une grande partie des doctrines païennes qui existaient à l'époque et qui faisaient pression sur l'Église ont trouvé leur place et sont devenues des causes de division dans l'Église. Elles ont encore de l'ampleur même aujourd'hui. Au IVe siècle, les prêtres d'Attis à Rome se plaignaient que les chrétiens avaient volé toute leur doctrine, ce qui était bien vrai. Entre parenthèses, se référer au sujet d'Attis dans l'ouvrage de Fraser, The Golden Boat, partie 4, volume 1 et 2. Ces problèmes, comme l'immaturité, l'instabilité, les divisions, la jalousie et l'envie, les poursuites judiciaires, les difficultés conjugales, l'immoralité sexuelle et le mauvais usage des dons spirituels existent toujours. Aperçu du livre 1 Corinthiens par E. W. Billinger. La première épître aux Corinthiens. La structure du livre dans son ensemble. 1 Corinthiens 1. Versets 1 à 9, introduction. 1 Corinthiens 1, verset 10 à 1 Corinthiens 4, verset 16, ministériel, reproche et explication. 1 Corinthiens 4, verset 17, mission de Timothée. 1 Corinthiens 4, verset 18 à 21, visite de Paul. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 20, choses entendues par Paul. 1 Corinthiens 7, verset 18 à 13, choses écrites par Paul. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11 jusqu'au chapitre 15, verset 58, ministériel, reproche et explication. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 à 9, visite de Paul. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 10 à 18, mission de Timothée. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19 à 24, conclusion. Note sur la première épître aux Corinthiens. Un compte-rendu des travaux de Paul à Corinthe est donné dans acte 18, verset 1, acte 18, verset 18. Quelque temps après cela, Apollos, recommandé par les frères d'Éphèse, vint à Corinthe et produisit une forte impression par sa présentation éloquente de l'Évangile. Voir les versets d'Actes chapitre 18, versets 27 à 28. Deux parties ont bientôt commencé à se montrer, l'un adhérant à Paul et à sa simple prédication, l'autre à Apollos. À ceci s'ajoute un troisième, manifestement le résultat de la visite de quelques judaïsants qui revendiquaient l'autorité de Pierre, tandis qu'un quatrième, répudiant les trois autres, affirmait qu'ils n'étaient que les vrais disciples de Christ. Ce n'était là qu'une des difficultés auxquelles l'apôtre devait faire face dans l'église naissante qu'il avait fondée. Il leur avait déjà écrit les dangers dus à leur environnement corrompu dans une telle ville, voir 1 Corinthiens 5, verset 9. Il avait d'ailleurs reçu une lettre de leur part, demandant des conseils sur certaines questions. mais ne faisant aucune référence à leur division. Parmi celles-ci, il avait été informé par des visiteurs à Éphèse. Voir 1 Corinthiens 1, verset 11, 1 Corinthiens 5, verset 1, 1 Corinthiens 11, verset 18, 1 Corinthiens 15, verset 12, qui lui avait fait part de la profanation du dîner du Seigneur, du fait de tolérer la personne qui a commis un délit incestueux et du scepticisme quant à la résurrection. Paul avait donc de nombreuses questions à traiter. Il commence par évoquer leur division et justifie son propre ministère, en faisant appel à eux comme à ses fils bien-aimés. Il parle ensuite à l'offenseur notoire, dont même les païens auraient honte, et qui les enjoint de ne plus tolérer, mais de le couper, l'enlever de leur assemblée. Il blâme leur esprit de litige et les charge de régler leurs différends sans le scandale de faire appel à des tribunaux païens. Il aborde ensuite la question du mariage, qui était l'un des sujets de leur lettre, et celle de la consommation de la nourriture offerte aux idoles, qui en était un autre, et défend à nouveau son autorité apostolique. Le reste de l'épître traite des erreurs qui ont affecté la vie de l'assemblée, du comportement des femmes, et de leur laisser la tête non couverte, du désordre au dîner du Seigneur, puis des dons spirituels, entre parenthèses surtout le parler en langue, et du scepticisme quant à la résurrection qu'a évoqué le noble 15e chapitre. Au temps de Paul, Corinthe était le chef-lieu de la province romaine d'Achaïe. Située sur l'isthme du même nom et disposant d'un port de chaque côté, elle était remarquable pour son commerce. Elle n'en était pas moins connue pour la richesse et la débauche de ses citoyens. La grande ville est maintenant devenue un bourg de taille moyenne. Voyons maintenant l'intention des chapitres. Chapitre 1. Paul rend grâce pour la foi de l'église de Corinthe et pour le fait que le témoignage de Christ a été confirmé parmi eux. Christ a été expliqué pour les tenir sans culpabilité jusqu'au jour du Seigneur. Dieu est fidèle, par qui nous sommes appelés et donnés à la communion du corps de son Fils, le Christ. Ce qui suit donc du verset 10 au verset 17 est un appel à l'unité. Voyons l'unité de l'Église. La position biblique sur l'unité dans l'Église est très claire chez les apôtres. Paul n'est pas différent. 1 Corinthiens 1, verset 10 à 17. Paul parle ici de la montée des cultes de la personnalité, qui a été un facteur de l'Église, et de ses communautés depuis le commencement. Nous voyons ici que les Corinthiens accordaient de l'importance à la personne qui les baptisait ou les ordonnait, détournant ainsi l'attention de leur nouveau statut spirituel et montrant ou faisant preuve de partialité envers celui qui les baptisait. Le don vient de Dieu et non de la personne qui les a baptisés. Les églises de Dieu modernes sont tombées dans ce piège, en particulier au dernier jour, et suivent les ordres d'un individu et l'interprétation de cet individu. De tels points de vue ont affecté les églises de Dieu depuis la naissance de l'église Radio Church of God et ont détruit la théologie des adventistes. Paul dit au verset 10 que nous parlons tous de la même chose et qu'il n'y ait pas de dispute entre vous. Cela renvoie à la loi. Ceux qui provoqueraient un schisme dans l'église sont tenus pour responsables de ce schisme. L'unité du corps est un aspect critique et essentiel de la foi. Les personnes qui divisent le corps, pour des raisons administratives, sont tenues responsables de ce fait. La fausse prophétie est un indicateur de la personne avec laquelle Dieu traite dans le corps. Il est vrai qu'il existe de nombreuses administrations, mais un seul Seigneur, comme l'a enseigné Paul. La compréhension du corps est révélée par ses officiers et réalisée par une opération collective dans l'esprit. 1 Corinthiens jusqu'au chapitre 4 traite de l'unité de la foi au sein d'une unité de doctrine. Il n'y a qu'une seule vérité. Paul condamne l'idolâtrie à partir de Romains, chapitre 1, verset 22 à 25. Nous lisons à partir du verset 22. « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. » Voir aussi Paul et la loi, numéro 271, aux pages 6 à 7 dans le document anglais. Paul continue ensuite, à partir des versets 18 et suivants, à parler de la parole du storos, ou poteau, étant une folie pour ceux qui périssent. Cependant, pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Paul parle de Dieu détruisant la sagesse des sages et contrecarrant l'intelligence des intelligents. Il s'agit d'une attaque directe contre les philosophes grecs qui argumentent contre et s'opposent au sacrifice par procuration, en ce que si Christ n'était pas un vrai Dieu, comment son sacrifice pourrait-il réconcilier l'homme avec Dieu? Cela vient d'une carence ou déficience de la langue grecque et de leur processus de pensée. Ils n'avaient pas de mots pour l'amour de Dieu. Ils ne comprenaient que l'amour filial et érotique. Le mot « agapé » vient de la traduction de la Septante, du livre du Cantique des Cantiques, où le mot « ahaba » a dû être translittéré « agapé », mais qui n'était pas très connu parmi les Grecs. Ils ne comprenaient pas non plus la puissance et le plan de Dieu. À partir des versets 20 à 25, Paul parle de cette sagesse et dit que les Juifs demandent des signes et que les Grecs recherchent la sagesse, mais que nous prêchons Christ au storos, ou à sacrifier. Le mot « crucifié » n'apparaît pas dans les textes grecs. C'est le dieu Attis qui était affiché ou défilé sur la croix du soleil, et particulièrement à Rome. À partir des versets 26 à 31, Paul exhorte l'Église à considérer leur appel et la façon dont Dieu a choisi les faibles du monde pour faire honte aux forts. Dieu a choisi les faibles et les méprisés, les choses qui ne sont pas, pour réduire à néant les choses qui sont, afin qu'aucun humain ne puisse se vanter en présence de Dieu. Dieu est la source de notre vie en Christ Jésus, qui doit être la source de notre sagesse, de notre justice, de notre sanctification et de notre rédemption. C'est pourquoi nous devons nous glorifier dans le Seigneur. Voyons le chapitre 2. Le chapitre 2 parle de la sagesse de Dieu transmise par l'Esprit Saint. Dieu répandra l'Esprit Saint et dans ces derniers jours, les mystères seront exposé, afin que toute l'armée du ciel comprenne la sagesse multiple de Dieu. Nous lisons dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par l'Esprit Saint envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Version 8 secondes. Ces anges aspirent à regarder la sagesse de Dieu alors que nous comprenons le plan de salut, voire 1 Corinthiens 2, versets 1 à 7, et que notre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes. La sagesse de l'Église est une sagesse secrète et cachée de la foi qui repose dans la puissance de Dieu, voire les versets 5 à 7. Ainsi, nous sommes glorifiés d'avoir été choisis, appelés, justifiés, et de ce fait glorifiés, voire Romains 8, versets 29 à 30. L'étendue des mystères qui seront révélés dans les derniers jours démontrera la sagesse de Dieu à la fois aux armées célestes et humaines. Voir le document d'étude « Les mystères de Dieu » numéro 131, page 8, dans le document anglais. Aucun des dirigeants de cet âge n'a compris ce fait, sinon ils n'auraient pas tué le Seigneur de gloire. Voir le verset 8. Personne ne peut vraiment comprendre ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Voir le verset 9. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, voir le verset 10. C'est seulement l'Esprit Saint qui rend cette connaissance possible, voir le verset 11. C'est par cet Esprit que nous comprenons les dons que Dieu nous a accordés, voir le verset 12. C'est par l'Esprit Saint que Dieu devient tout en tous, comme nous l'avons vu dans l'Épître aux Éphésiens, et que le même message de Dieu agit en nous par la puissance de l'Esprit. C'est ainsi que nous sommes devenus consubstantiels au Père, voir le document numéro 081. Comme nous l'avons vu dans Éphésiens chapitre 1, verset 23, et ci après dans 1 Corinthiens 12, verset 6, et chapitre 15, verset 28, qui est le but de la création et des résurrections. Voyons maintenant le chapitre 3. Paul commence ce chapitre en traitant de l'immaturité spirituelle de l'Église là, en tant qu'enfant en Christ, et pourquoi il devait être nourri avec du lait et non de la viande, et même lorsqu'il écrivait, il n'était pas prêt, car ils étaient encore charnels et agissaient en division ou faction, voir les versets 4. Il dit ensuite qu'ils sont simplement des hommes par lesquels ils ont cru comme le Seigneur a assigné à chacun, voir le verset 5. Paul utilise l'analogie en disant qu'il a planté, qu'Apollos a arrosé, mais que c'est Dieu qui a donné la croissance, voir le verset 6. Ni l'un ni l'autre n'avait d'importance. mais seulement Dieu qui a donné la croissance. Voir le verset 7. Les ouvriers sont tous égaux, et chacun recevra son salaire en fonction de son travail. Ce sont tous des compagnons d'œuvre, et les frères sont le champ de Dieu et l'édifice de Dieu en tant que le temple de Dieu. Voir le document numéro 282D. Au verset 8 à 9, verset 16, ci après. Au verset 11, il dit que chacun doit prendre soin de la manière dont il construit, et que chacun n'a pas d'autre fondement que celui qui est posé par Jésus-Christ. Quel que soit le matériau utilisé, le travail de chacun est mesuré et testé par le feu, pour déterminer quel genre de travail il a accompli. Voir les versets 12 à 13. Si leur travail construit sur le fondement survit, ils recevront une récompense. Ceux dont le travail est brûlé perdront leur travail. Ils seront eux-mêmes sauvés, mais seulement comme par le feu. Voir les versets 14 à 15. Paul leur dit qu'ils sont le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en eux. Voir le verset 16. C'était le plan de salut, voir le document numéro 001A, depuis le commencement, se référer au document 232D. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et les élus sont ce temple. Voir le verset 17. La sagesse du monde est une folie pour Dieu, qui prend les sages dans leur ruse. Voir les versets 18 à 19. Les pensées des sages sont vaines pour Dieu. Voir le verset 20. Que personne ne se vante donc des hommes, car pour toutes choses sont les élus, tant les apôtres que le ministère, le monde, la vie ou la mort, et le présent ou l'avenir, tous sont à eux, et ils sont à Christ, et Christ est à Dieu. Paul dit que la loi est sainte et juste, et qu'il a observé la loi. On voit le document numéro 271. La loi est ce qui définit le péché. Christ nous a sauvés de la peine de mort par son sacrifice. Nous sommes maintenant sous l'esprit de la loi par l'Esprit Saint. Nos esprits ont été renouvelés par l'Esprit Saint. Voir 1 Corinthiens 3, verset 16. Également 1 Corinthiens 3, verset 1 à 2. Nous sommes le temple de Dieu et Dieu habite en nous. Voyons maintenant le chapitre 4. Le chapitre se poursuit sur le fait que les élus sont des serviteurs de Christ et des intendants des mystères de Dieu. Voir le verset 1. Se référer aussi au document d'étude Les mystères de Dieu, numéro 131, aux pages 2 à 3 dans le document anglais. Les mystères de Dieu sont divisés en ce que l'on appellera des phases de révélation. La première phase comprend les doctrines de base concernant la divinité, les relations de la vie humaine et les éléments de prophétie qui affectent notre compréhension du plan de salut. L'Esprit Saint donne la compréhension des mystères aux élus et les rend intendants des mystères de Dieu. Voir 1 Corinthiens 4, verset 1 à 5. Tite 1, verset 7 montre que les anciens, entre parenthèses le presbytère ou l'épiscopone, sont les intendants de Dieu. Nous lisons dans l'épître à Tite, chapitre 1, verset 7, « Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. » Version Louis II. L'injonction de ne pas chercher son propre plaisir, en grec « otade », et de ne pas se livrer à la passion, en grec « orgilon », ou « s'adonner au vin », ni à la violence, ou de chercher le gain des honnêtes, en grec « eich krokerde », démontre l'attitude chez les personnes à qui et par qui les mystères sont révélés. La traduction du mot grec « hyperatas », qui signifie « assistant » ou « serviteur », en tant que ministre de Christ dans la Bible version KJV, a obscurci ou restreint inutilement l'application de l'intendance des mystères de Dieu à un sacerdoce, ce qui n'est pas le sens. Les élus ont tous accès à la compréhension des mystères qui dépendent de leur relation à Dieu dans l'Esprit Saint. Toutefois, il est tout à fait inacceptable d'expliquer ces mystères sans discernement. Les mystères sont donnés à ceux qui sont dédiés à Dieu en Jésus-Christ. Aucun n'est irréprochable avant le baptême. Ce n'est pas le sens de Tite 1, verset 7. L'attitude pour la révélation des mystères de Dieu est celle d'une dévotion désintéressée au devoir. L'Esprit Saint travaille avec nous avant le baptême et en nous à partir du baptême. Voir le document d'étude Repentir et baptême numéro 052. Il est tout à fait inadmissible de se faire baptiser et de ne pas être ensuite engagé dans l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. La séquence est établie comme étant l'introduction au mystère, l'entraînement à la parole, puis la préparation à l'enseignement de la parole. C'est ce que Paul voulait dire lorsqu'il parlait de lait et de viande. Voir 1 Corinthiens 3, versets 1 à 23, cité ci-dessus. Ce texte dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, était le prélude au sentiment exprimé au chapitre 4. L'œuvre de l'Église de Dieu du XXe siècle est exactement ce contre quoi Paul s'était levé. Chacun se réclamant des hommes. C'est pourquoi les œuvres ont été exposées au feu du faux témoignage et détruites dans leur propre faiblesse. Les épreuves que nous subissons ont pour but de tester notre foi et notre fondement, car nous sommes le temple de Dieu. 1 Pierre 2, verset 1 à 5, nous lisons « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Version Louis II. Alors l'attitude qui s'impose écarte toute malveillance, toute méchanceté, ruse, envie et calomnie. Nous sommes tenus de travailler ensemble. Nous devons être comme des nouveau-nés qui apprennent le lait spirituel pur pour pouvoir grandir jusqu'au salut. Christ a été la première pierre vivante choisie par Dieu et à laquelle nous sommes ajoutés, un par un, pour construire la maison de Dieu. Sur chaque pierre vivante que nous sommes, d'autres sont ajoutés. Nous devons donc être vrais et fermes pour que l'édifice soit intact. Les pierres vivantes reçoivent également un oracle vivant, voir Actes 7, verset 38, qui est les Écritures, et une espérance vivante, voir 1 Pierre 1, verset 3, qui est la foi, voir le document d'étude Les Oracles de Dieu, numéro 184. Paul parle de se juger les uns les autres et dit que ce sera Christ qui nous jugera quand il viendra. La réalité est que lorsqu'il viendra, nous aurons été jugés et notre position déterminée, soit dans l'ex-anastasine de la première résurrection, soit hors de celle-ci, se référer à Philippiens 3, verset 11. Notre louange viendra alors de Dieu. Au verset 6, Paul déclare qu'il a appliqué ses leçons à lui-même et à Apollos pour leur bénéfice en n'allant pas au-delà de ce qui est écrit et que nul d'eux ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Qui voit en eux quelque chose de différent qu'ils n'ont pas reçu? Pourquoi alors se vanter, se glorifier, comme si ce n'était pas un cadeau, c'est-à-dire un don, qui nous a été octroyé? Voir le verset 7. Paul dit qu'ils sont déjà comblés et riches. Il dit que sans nous, vous seriez devenus rois. Et il souhaite qu'ils règnent pour que les apôtres puissent partager le règne avec eux. Voir le verset 8. Paul pense que Dieu a exposé les apôtres comme les derniers de tous, comme des hommes condamnés à mort, parce qu'ils sont devenus un spectacle pour le monde, aux anges et aux hommes. Voir le verset 9. Paul est conscient qu'il mourra comme Pierre et André et bien d'autres, se référer au document numéro 122b. Il semble confondre le rôle et le pouvoir de l'Église en disant qu'ils sont fous à cause ou pour l'amour de Christ, mais que les élus sont sages en Christ. Les apôtres sont faibles, mais les élus sont forts. Ils sont tenus en honneur et les apôtres sont discrédités. Voir le verset 10. Cependant, dans un chapitre ou un autre, ci-dessus, il vient de les fustiger pour leur ignorance et pour leur besoin d'être nourris de lait et non de viande. Si un symbole d'ironie avait été inséré, ce serait plus clair. Il les informe ensuite de l'état des apôtres. Il leur dit qu'ils ont faim et soif, qu'ils sont mal habillés et malmenés, et qu'ils sont sans abri. Ils travaillent de leurs propres mains pour leur subsistance. Il dit que lorsqu'ils sont injuriés, ils bénissent. Lorsqu'ils sont persécutés, ils endurent. Lorsqu'ils sont calomniés, ils essaient de se réconcilier. Ils sont traités comme les déchets du monde. Le fait est que les frères souffriraient ainsi pendant 2 millénaires jusqu'à la fin. Au verset 14, il dit qu'il n'écrit pas cela pour leur faire honte, mais pour les admonester comme des enfants. Car bien qu'ils aient d'innombrables guides en Christ, ils n'ont pas beaucoup de pères. Il dit ensuite qu'il est devenu leur père en Jésus-Christ par l'Évangile. Voir le verset 15. Il les exhorte ensuite à l'imiter. Et dans ce but, il a envoyé Timothée pour les informer de ses voies en Christ, comme il les enseigne partout, dans toutes les églises, voir les versets 16 à 17. Il dit ensuite que certains sont arrogants, comme si Paul n'allait pas venir vers eux bientôt. Il dit qu'il viendra bientôt et découvrira non pas les paroles de ces gens, mais leur pouvoir, voir le verset 18 à 19. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, voir le verset 20. Il leur propose alors le choix d'un bâton ou de l'amour dans un esprit de douceur, voir le verset 21. Il aborde ensuite la question de l'immoralité dans l'église de Corinthe. Voyons maintenant le chapitre 5. Dans les 5 premiers versets, nous traitons d'un péché rapporté à Paul, entre parenthèses peut-être par les gens de Chloé, voir le chapitre 1, verset 11, et de sa suppression de l'individu et de l'église. Les 5 premiers versets traitent de la situation d'un homme vivant avec la femme de son père, entre parenthèses belle-mère, un péché que l'on ne trouve même pas chez les gentils, entre parenthèses païens. Les lois romaines et juives interdisaient le mariage entre un homme et sa belle-mère. Voir Lévitique 18, versets 7 à 8. Le jugement de Paul était qu'il devait livrer cet homme à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. En d'autres termes, il devait être retiré de l'Église et de la protection de l'Esprit-Saint, voir le document numéro 117, afin qu'il puisse être amené à se repentir par la destruction de la chair sous Satan, en dehors de la protection de Dieu parmi les croyants, ceux dans la foi. L'individu pourrait alors se repentir et être restauré dans la foi pour le salut lors de la première résurrection, numéro 143a, ou au plus tard, lors de la deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc, numéro 143b. Paul a été choqué autant par le péché que par la complaisance de la congrégation à tolérer le péché parmi eux. La restauration de la foi exigeait le repentir, puis le pardon des péchés à travers le dîner du Seigneur, en tant que le rebaptême annuel du lavement des pieds et du pain et du vin du corps et du sang du Messie. Se référer au document d'étude des sacrements de l'Église numéro 150, aux pages 7 à 8 dans le document anglais. Ainsi, tout le processus de sacrifice préfigurait Christ et l'Église, qui sont les élus, en tant que le Naos, ou le Saint des Saints, dans le temple de Dieu, voir 1 Corinthiens 3, verset 16. Le symbolisme de l'élimination du péché à la fête de la Pâque et des pains sans levain est traité par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 à 8. Paul utilisait le Corinthien comme exemple du péché qui devait être éliminé de l'Église. Ce processus était une préparation à la Pâque. Il a commencé avec la prise du dîner du Seigneur. Paul a critiqué leur comportement lors de la Pâque. Les gens se saoulaient et faisaient la bringue. Et il leur a dit qu'ils ne devaient ni manger ni boire pendant le dîner du Seigneur. Il s'agit d'une assemblée solennelle. Cependant, toute la fête est faite de joie et de bonheur. Nous devons manger à l'extérieur de la pièce où nous prenons le dîner du Seigneur. Vivre comme un Corinthien était un adage de l'époque qui signifiait que cette personne avait une vie pleine d'extravagance. Comme nous le voyons ci-dessus, il y avait 1000 prostituées au temple d'Artémis, à Corinthe seulement. Et la structure était telle qu'elles devaient se débarrasser de tous les péchés de leur vie pendant la préparation de la Pâque. Ainsi, le concept d'élimination du péché et de la communion était une fonction de la Pâque dans le cadre du plan de Dieu. C'était une fonction des pains sans levain, et ensuite de la Pentecôte, elle ne pouvait pas être reléguée à la semaine ou au pain de proposition, car toute sa signification était alors perdue. Les sacrifices pointaient vers Christ et s'éloignaient loin des premiers sacrifices dont les pains de proposition faisaient partie. Le péché est ainsi éliminé dans la période qui précède et allant jusqu'au dîner du Seigneur. La Pâque et les pains sans levain sont rendus possibles par le sacrifice de Christ comme offrande de la Pâque lors de sa crucifixion. La nuit de la Pâque ou la soirée mémorable est pour nous faire rappeler la libération de l'esclavage du péché et d'aller vers la captivité du Messie. Voir le document d'étude de la soirée mémorable numéro 101. Les pains sans levain représentent l'état sans péché qui attend l'Esprit-Saint. L'offrande de la gerbagité, voir le document d'étude de l'offrande de la gerbagité numéro 106b, commémore l'ascension et l'acceptation de Christ par Dieu. La Pentecôte, comptée 50 jours à partir de l'offrande de la gerbagité, voir le document d'étude de la Pentecôte au Sinaï numéro 115, représente alors la première récolte des élus. La purification des élus passe par le processus de se débarrasser du péché. Ceci est illustré par le concept du levain de la malice et de la méchanceté, voir 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Se référer aussi au document d'étude Le Vieux et le Nouveau Levain, numéro 106a, pages 4 à 5 dans le document anglais. Paul disait un certain nombre de choses ici. La première était que Christ était l'agneau pascal, le sacrifice de la Pâque, présenté devant le grand prêtre, entre parenthèses souverain sacrificateur, et dont il n'y avait qu'un seul, selon la Mishnah. Schuher en parle dans l'ouvrage « The History of Jewish People in the Age of Jesus Christ », volume 1, page 522. Le deuxième point est que le levain n'est pas un péché, mais plutôt qu'il existe différents types de levain. Le levain que nous avions autrefois était le levain de la malice et de la méchanceté. La fête des pains sans levain célèbre le fait que nous avons été sauvés par Christ dans un état de sincérité et de vérité sans levain. Nous devons célébrer cette fête dans cet esprit. Troisièmement, nous n'avions pas encore reçu l'Esprit Saint qui a été accordé à la Pentecôte. Cet esprit était le nouveau levain du royaume de Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 33, et il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Les mesures sont la séquence de Dieu, du Christ et des élus. Ainsi, la femme et l'Église, le levain et l'Esprit Saint, et les trois mesures sont les niveaux de la relation au sein de la famille de Dieu. Le tout serait levé. Dieu deviendrait tout en tous. Voir Éphésiens 4, verset 6. Le symbolisme des deux pains à la Pentecôte qui sont levés a un rapport direct avec cet aspect. Voir le document d'étude de la Pentecôte au Sinaï, numéro 115. Le concept dont nous devons nous occuper est celui de devoir nous débarrasser du vieux levain pendant la fête. Nous sommes tenus de nous débarrasser de la malice et de la méchanceté et de procéder au développement d'un caractère saint et juste dans l'esprit. Ceci doit se refléter et s'inscrire dans le cadre de la période de préparation menant à la Pentecôte, qui symbolise notre récolte en tant que les prémices, entre parenthèses premiers fruits, général après Christ. Cette récolte précède la récolte générale à la fête des tabernacles ou des cabanes, entre parenthèses tentes, car elle est en cours et se déroule sur une période de 2000 ans. Notre jugement est maintenant. Fornication. Nous, tous de la foi, nous devons nous abstenir de toute forme de fornication. Voir Acte 15, verset 20, verset 29, chapitre 21, verset 25, 1 Corinthiens 5, verset 1 à 13. La fornication avec la femme de notre père ou notre belle-mère n'est pas simplement une fornication, c'est une fornication incestueuse. La punition pour la fornication, et en particulier dans ce cas, était d'être enlevé de l'Église jusqu'au repentir. C'était pour que la vie du fornicateur puisse être sauvée au dernier jour, comme nous le voyons au verset 5 ci-dessus. Ceux qui dans l'Église ne sont pas dans l'Esprit sont sous l'autorité du Dieu de ce monde et sont consignés à la deuxième résurrection. Dans l'Église, l'échec de se repentir du péché signifie l'exclusion de la première résurrection et le fait d'être relégué à la deuxième résurrection. Plus vite cela est fait, et plus l'auteur de l'infraction en est informé clairement, meilleures sont les chances de se repentir, soit maintenant, soit en suivant les instructions lors de la deuxième résurrection. Dieu jugera les prostituées et les adultères. Nous lisons dans Hébreux 13, verset 4, « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Version Louis II. La loi de Dieu, dans l'Église, est placée à un niveau plus élevé parmi les élus que la loi ne l'était pour la nation. Se référer à Matthieu 5, versets 27 à 32. Se référer aussi au document d'étude La loi et le septième commandement, numéro 260, aux pages 8 à 9 dans le document anglais. Le chapitre 5, versets 9 à 13 exige que l'Église se purifie, se débarrasse de tous les pécheurs coupables d'immoralité. Septième commandement, ou d'avarice, dixième commandement. Ou qui sont idolâtres, première, deuxième et troisième commandement, et injures, sixième et neuvième commandement, ou ivrognes, troisième et dixième commandement, ou voleurs, huitième commandement, et de ne pas même manger avec un tel individu. Ainsi, tous ceux qui enfreignent les dix commandements de Dieu, sous la loi de Dieu, voir le document L1, sont retirés, enlevés du corps de Christ, jusqu'à ce qu'ils se repentent. Nous allons lire maintenant la première épître aux Corinthiens, dans la version Louis II. À partir du chapitre 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ, ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi, jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Chapitre 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devient fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Chapitre 4. Ainsi, quand on regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités et rends ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés nous bénissons, persécutés nous supportons, calomnier, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'ai écrit ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec l'amour dans un esprit de douceur. Chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Nous allons voir maintenant les notes de Bullinger sur 1 Corinthiens chapitre 1 à 5, pour la Bible version King James, disponible uniquement en anglais. Fin de la lecture du document d'étude commentaire sur 1 Corinthiens, introduction et partie 1, document numéro F046.